Vous écoutez
RMC. RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Salut les amis citoyens et citoyennes, c'est Laurent Neumann.
Bonjour les amis, c'est Éric Brunet.
Alors oui, on va parler de l'affaire Fillon, on va même parler des rebondissements dans l'affaire Fillon. Avant d'écouter ce que Éric et moi on en pense, le mieux peut-être c'est de commencer par écouter Éliane Houlette.
Ah,
c'est
l'ancienne... Qui est Éliane Houlette?
Eh oui, c'est l'ancienne procureure de la République, hein, le parquet financier.
Et c'était la patronne du parquet national financier nommée par Madame Taubira.
Tu as raison de le préciser.
Sous Hollande.
On en parlera. Il se trouve qu'elle était auditionnée il y a quelques jours par une commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Elle a dit ceci et ça a tout fait démarrer.
Le plus difficile, franchement, c'est d'avoir été de gérer en même temps la pression des journalistes et surtout la pression du parquet général. J'ai mis un peu sur une fille, je regardais les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation. Les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11h, les demandes de précision. J'ai été convoquée au parquet général parce que le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de voie procédurale. Bon, donc, vous voyez, on ne peut que se poser des questions, quoi.
Mais
c'est un contrôle très étroit. Et c'est une pression très lourde.
Alors, donc, cette Éliane Houlette nommée par Taubira, c'est elle qui est la patronne du parquet national financier qui va être au départ de l'affaire Fillon. Et le mystère qu'il faut percer, elle l'évoque, là, il y a quelques jours, Éliane Houlette, c'est celui des circonstances qui ont conduit ce parquet national financier a changé le cadre juridique de l'enquête sur Fillon et sur Pénélope subitement. Voilà. Et donc, elle explique, en gros, c'est parce qu'on lui a demandé, elle le dit, hein, subitement, on lui a demandé l'enquête préliminaire ouverte, a dû changer de cadre juridique. Voilà. Et ça n'a pas été anodin sur la suite de l'enquête, Laurent. Hein.
D'où la question qu'on se pose, qu'on vous pose, les amis, aujourd'hui. Est-ce que la justice a, oui ou non, faussé l'élection présidentielle de 2017.
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Ah ben pour moi, c'était extrêmement simple. La justice et les médias ont chassé en meute. Je ne veux pas faire le fanfaron aujourd'hui. Moi, j'étais au cœur de ce dispositif. J'étais là, j'ai tout vu. J'étais dans BFM, j'étais dans RMC. J'ai vu mes confrères. Je ne parle pas de nos médias à nous, hein, je parle de tout le monde. Oui, collectivement, nous avons... consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais nous avons changé le cours de l'histoire.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Alors moi, je pense que le cours de l'histoire n'en a pas été changé pour une raison très simple, et je veux bien qu'on en discute aussi. Je crois que François Fillon avait déjà perdu l'élection présidentielle avant même que l'affaire n'éclate. Mais au-delà de ça, la vraie question à laquelle on doit répondre, c'est... est-ce que François Fillon a réellement commis les faits qu'on lui reproche? Et ça n'est pas à nous de le dire, ce sera à la justice. Normalement, le tribunal correctionnel doit rendre son jugement lundi prochain. Il sera 13h30, mon petit Éric.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
On va suivre.
Salut Lisa Marie.
Bonjour Lisa Laurent, bonjour Éric, bonjour à tous.
Tu sais, certains jours, on nous reproche parfois, Éric et à moi, d'avoir le même avis et donc c'est moins drôle. Bon, mais certains jours, on nous reproche d'être faussement en désaccord. Je peux te dire, Lisa Marie, et je peux vous dire à tous les amis, que là, sur l'histoire Fillon, mais avec Éric, on n'est pas d'accord du tout. On s'empeigne depuis des mois sur cette question-là. Et évidemment, les rebondissements dans cette affaire, on ne pouvait pas passer à côté. Il fallait qu'on en parle.
Et vous n'êtes pas d'accord, et on vous pose aussi la question, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? C'est le moment de voter. Rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent, et sur la page Instagram RMC Off, ça se passe en story.
RMC, Brunet Neumann
32-16.
Allez, on va au 32-16, mon Laurent.
Bah oui, le plus important, c'est de savoir ce que vous, les amis, vous en pensez. On est avec Abou qui nous appelle de la Garenne-Colombes, près de Paris, les Hauts-de-Seine. Salut Abou.
Salut Abou.
Salut Laurent, salut Eric, et salut Lisa Marie.
Eh ben, bonjour Abou. Bienvenue sur RMC. Tu en penses quoi, toi? Est-ce que tu crois que la justice a faussé l'élection présidentielle?
Alors, il y a plusieurs niveaux dans ma réponse. Et dans un premier temps, je voudrais je voudrais aller dans le sens de ce que tu disais tout de suite, Laurent, je me permets de te tutoyer.
Bien sûr.
Moi, je vous suis depuis que vous étiez chez Bourdin. Vous commenciez à 7h55, je
tout
crois,
à fait.
De mémoire.
Tous les jours.
5 minutes.
Brunet-Neumann, tous les jours chez Jean-Jacques.
Pendant 5
voilà.
ans.
Voilà. Donc, ça durait 5 minutes. C'était les 5 minutes les plus frustrantes de ma vie. Donc, je me sens un peu producteur de l'émission parce que l'émission que vous avez aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un truc. Quand je regardais ces 5 minutes tous les jours, je me disais, mais pourquoi ils font pas une émission comme ça qui dure plus longtemps où ils peuvent opposer leur point de vue, etc. Donc, premièrement, je tiens à saluer ça et vos divergences, je les constate depuis déjà très longtemps et je sais que vous n'êtes pas fake, quoi, en résumé. Alors, pour revenir au sujet, Fillon et les médias, etc., donc là, je suis plutôt de l'avis de Laurent, clairement. Mmh. François Fillon s'est éliminé tout seul, selon moi, et il s'est éliminé tout seul parce qu'il a opposé son discours, ses ambitions à ses actes. Et je voudrais qu'Éric revienne un petit peu à ça, en fait. Parce qu'Éric pointe le fait que la justice aille trop vite, mais que la justice aille trop vite ne doit pas être un problème dans notre pays. Le problème est que la justice, dans certains cas, est trop lente, ou qu'elle ne s'applique pas, mais qu'elle aille trop vite. C'est merveilleux que la justice aille vite, si tant est qu'elle est pertinente.
Oui.
Donc, je suis vraiment.
Moi, je crois que moi,
à ce que dit Éric.
Tu dis exactement. Abou, je vais te répondre et après je te repasserai le micro. C'est Éric Brunet. Tu dis exactement ce que dit sur ce point, hein, Laurent Neumann. Il dit, ah, tu passes ton temps à te plaindre que la justice est lente. Là, elle est allée vite. Enfin, je suis désolé. La justice en France, elle a un rythme qui est lent. Mais pourquoi soudainement, pour un candidat à l'élection présidentielle, François Fillon, se met-elle en branle avec une telle célérité, une telle rapidité? Pourquoi est-ce que soudainement, Madame Houlette, qui est la patronne nommée par la gauche du parquet national financier, soudainement, on lui dit, attention, tu vas changer de procédure, puisque c'est Fillon, tu vas faire comme si, tu vas faire comme ça. Et le bras armé, pardon, mais le parquet qui est le bras armé du ministère de la Chancellerie, du ministère de la Justice, qui dépend, de l'exécutif, on va dire, pour être gentil, soudainement va lui dire comment elle doit faire pour arriver à la mise en examen de François Fillon. Alors parce que moi je vais te dire une chose. Il y a deux sujets. Je te termine. Il y a un premier sujet. Est-ce que Fillon est coupable, etc. On verra la semaine prochaine. Peut-être qu'il l'est. Moi je m'en fous.
Ah bon,
c'est pas mon sujet.
Ah bon?
Non, c'est mon. Moi, je suis filloniste jusqu'au bout des ongles.
Ah d'accord. Donc, je me fiche de savoir s'il a commis les faits.
Ça n'est pas mon sujet parce que terre entière, pendant 3 ans, a enquêté là-dessus. Tous les journalistes conscientisés, les bonnes consciences, les bien-pensants, comme des moutons, ont tous expliqué à la France entière que Fillon était une ordure et que sa femme était sa complice. Très bien. Ok. Très bien. Il est enterré. De toute façon, il ne pourra jamais ressortir de son tombeau politique. Maintenant, deuxième sujet, beaucoup plus intéressant. Et là, mon petit Abou, j'aurais bien aimé les voir, tes petits copains, journalistes, investigateurs.
La justice. Gentiment, Abou, il a rien fait.
Non, mais je lui dis gentiment. J'ai le droit de m'engueuler avec Abou. Mon petit Abou, j'aurais bien aimé les voir, tes petits copains, investigateurs, Davet et l'Homme, Mediapart, Canard Enchaîné et compagnie, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant de travailler dans la direction de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire d'une étrange porosité entre l'exécutif et le parquet national financier qui a conduit justement la justice en divulguant aux journalistes, tous les 2 jours, comme dans une série télévisée, des petits scoops sur Fillon pendant plus d'un mois, voilà, pour nourrir la presse qui s'en délectait et qui s'en léchait pour lécher les babines. C'est ça qui m'intéresse. Moi, la culpabilité de Fillon, elle a déjà été prouvée par elle a déjà été démontrée par les journalistes moutonniers. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice. Pourquoi a-t-elle fait ça? Sur l'ordre de qui, mon petit Abou?
Éric, laisse-moi te répondre. Je pense, très sincèrement, que tu nous fais une Madame Houlette à ton niveau. Ah. Dans le sens où aujourd'hui, tu fustiges tes collègues et ta corporation sur le positionnement qu'ils ont eu au moment de l'affaire Fillon. Mais laisse-moi juste te dire une chose, Éric. Madame Houlette, elle a fait son travail. Qu'on lui ait mis la pression pour faire son travail, elle a fait son travail.
J'sais pas.
Fait des études pour être magistrate, Madame Houlette.
Ouais.
Tout comme toi, t'as fait des études pour être journaliste et faire ton travail de journaliste. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, Le fait de que la justice aille vite, tu réponds à ta question en fait dans ton propos, dans le sens où en effet on parle de quelqu'un qui se présente au poste le plus éminent de la France, qui va représenter la France, qui va mettre en place un gouvernement, qui va mettre en place des lois qui vont régir nos vies au quotidien. Si cette personne-là, tu as des suspicions, aussi minimes soient-elles, tu dois prendre les dispositions les plus rapides au monde pour pouvoir soit lever la suspicion, soit pour l'écarter si toutefois il s'est rendu coupable de
Abou, c'est Laurent. Est-ce que tu me permets d'ajouter un argument pour répondre à Eric ? Si je comprends bien, Eric reproche à la justice d'avoir été indûment rapide parce que c'était Fillon, j'ai bien compris.
Oui, et téléguidé aussi.
Et donc, j'en conclue.
Juste une parenthèse. Ils ont été vite parce qu'il s'agit d'un candidat à l'élection présidentielle.
Attends, justement. J'aimerais bien, Eric, finir ma phrase. Juste un mot. Donc, à contrario.
Donc, deux poids, deux mesures, d'accord. Donc, il a un citoyen différent des autres puisqu'ils ont été vite avec lui, mais pas avec les autres. Très intéressant.
Si tu veux être un bon avocat de Fillon, il faut que tu écoutes la partie adverse, Eric. Écoute bien. Si j'en conclue.
Je ne fais que ça, j'écoute. Depuis des années.
Je t'écoute. Donc, toi, tu penses que la justice a été trop rapide parce que c'était Fillon. Donc, non. J'en conclus, à contrario, que tu aurais préféré que Fillon soit traité comme tout le monde, donc que la justice soit lente.
Non, c'est pas un sujet de rapidité. Mais tu dis des conneries. J'ai jamais dit ça. Je dis qu'elle a été téléguidée par le pouvoir. Reprends ton micro, mais je dis pas.
Je continue. Tu penses qu'elle a été rapide, excessivement rapide, téléguidée par le pouvoir, et donc rapide. Et donc, que ça a empêché François Fillon de mener une campagne présidentielle normale et peut-être même d'être élu président.
Ça me va
très bien. Mais pardon, donc à contrario, tu aurais préféré que la justice soit donc lente comme elle l'est.
Non.
Marrant que tu veuilles pas.
Non, mais je rêve pas que la justice soit lente. Pourquoi tu me réduis à ça? Je rêve pas que la justice soit lente en France, quand même.
Donc, tu aurais préféré que la justice ne se mêle pas, soit si tu préfères, honnête, de cette affaire pendant la campagne présidentielle. Donc, peut-être que François Fillon intègre l'Élysée avec tous les faits qu'on lui reproche. Donc, avec son irresponsabilité pénale, qu'il ne soit pas jugé, qu'il ne soit jugé qu'à la sortie de l'Élysée, dans 5 ans, voire dans 10 ans, en cas de réélection, ça porte un nom. C'est ce qui est arrivé avec Chirac quand il est entré à l'Élysée. Ça s'appelle l'impunité. Eh bien, moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose pour la démocratie que la justice, en l'occurrence, ait été vite. Et encore une fois, je dis cela sans préjuger de ce que dira le tribunal correctionnel lundi prochain. Je note quand même que le réquisitoire a réclamé 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour François Fillon, 3 ans de prison avec sursis pour Pénélope Fillon, que les amendes sont considérables et que les faits, ça ne préjuge pas du résultat, un réquisitoire, mais que les faits étaient suffisamment graves pour qu'au moins il y ait un procès.
Ça a été une pantalonnade. Est-ce que tu es au courant qu'au début du procès, un des procureurs du parquet national financier, qui s'appelle Aurélien Letocard, Aurélien Letocard. Voilà, il s'est avancé vers Fillon, et il a dit, savez-vous, Monsieur Fillon, là, de audience, au Moyen Âge, ce que vous avez fait aurait été passible de la peine de mort. Il dit, c'est un peu comme si aujourd'hui il y avait, je sais pas, un divorce, et qu'un magistrat s'approche vers une femme et dit, savez-vous, Madame, que, je sais pas, en Arabie Saoudite, l'adultère est passible de la peine de mort. C'est pareil. Le mec, il convoque le Moyen-Âge, il ose dire à Fillon, ce que vous avez fait mérite la mort au Moyen-Âge. T'imagines comment l'orientation des
Eric,
débats...
Mais faut peut-être rappeler les faits.
Oui.
Qu'est-ce qu'on reproche à François Fillon? Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Pourquoi? Parce qu'on le suspecte d'avoir fourni à son épouse un emploi fictif et les sommes en jeu, c'est plus d'1 million d'euros d'argent public. Et je m'étonne un petit peu parce que toi qui d'habitude es si soucieux de l'utilisation de l'argent public, c'est-à-dire de tes impôts, des miens, je m'étonne que tu prennes les faits avec par-dessus la jambe. Au fond, savoir si Fillon a bien commis ses faits ou pas,
Laurent,
ne t'intéresse pas.
Si.
Et j'imagine que c'est parce que c'est Fillon. Parce que ce serait quelqu'un d'autre, tu ne réagirais pas comme ça.
Je considère que le tribunal médiatique et la justice, main dans la main, puisque quand la justice a communiqué aux journalistes des faits, des fuites, contre d'ailleurs le droit français, a communiqué des fuites en 2017 à tous les journalistes tous les 2 jours. Ils ont bien travaillé main dans la main et ils ont tué Fillon politiquement. Donc je considère,
les journalistes font leur métier.
Moi je considère, si tu veux bien me laisser finir, que Fillon est mort politiquement. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment il a été mis à mort. C'est ça qui m'intéresse dans cette émission.
La question qu'on pose aujourd'hui à tous ceux qui nous appellent au 32-16, on va y aller parce qu'il y a Marie-Hélène qui nous attend, c'est la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle ? Il faut que tu répondes à cette question. Toi, tu dis oui, mais j'attends que tu m'amènes des arguments. Bon. Ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on aille voir Marie-Hélène, parce que je crois qu'elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout du même avis que Abou.
D'accord.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
On va remercier quand même Abou, hein, qui nous appelait de la Garenne-Colombes. Bonjour Marie-Hélène, bienvenue sur RMC.
Salut Marie-Hélène.
Bonjour Laurent, bonjour Eric.
On est ravis de t'accueillir.
Merci, moi aussi, je suis ravie que vous me donniez la parole.
Alors, est-ce que la justice a faussé l'élection présidentielle de...
Complètement, moi je dirais que c'est un hold-up démocratique. Voilà, il s'est passé un lynchage médiatico-judiciaire en règle de l'art. Et nous, les 4 millions de votants à la primaire, on a été spoliés. On a perdu à la déloyale. Premièrement, et là on en a la preuve, on parlait de cabinet noir, c'était un fantasme. C'est même le juge qui dit lui-même qu'il a subi des pressions. On ne peut pas avoir plus de preuves que ça, quoi.
Non, c'est pas vrai. Hein. Elle n'a pas dit qu'elle avait subi des pressions.
Si.
Bah, si elle a dit qu'on l'appelait deux fois par jour, trois fois par jour.
Oui, mais c'est même le mot pression.
Oui, mais c'est le rôle du parquet général de surveiller comment travaille le parquet.
Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Le parquet général lui demande de changer de procédure pour trouver une procédure beaucoup plus rapide pour mettre Fillon en très très vite en examen.
Oui, parce que les faits sont très graves.
C'est plus la démocratie.
Non, mais l'indépendance. C'est le ministère de la Justice qui dépend du gouvernement, qui appelle un juge pour lui dire de changer de procédure. Pardon, c'est pas normal.
Marie-Hélène,
pas du tout normal.
Marie-Hélène, il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que tu dis. Tu parles de hold-up démocratique. Le point de départ, c'est quand même de savoir si François Fillon a commis ou non ses faits. Et le deuxième point de départ, c'est de savoir si on peut envoyer à l'Élysée quelqu'un qui aurait réellement commis ses faits. C'est ça la question qu'on doit se poser.
Le peuple est le seul juge. Il fallait donner le tribunal
Mais le peuple a jugé. Il a voté.
Mais après un lynchage médiatico dans les règles de l'art. Écoutez, moi je me souviens en février, parce que je suis fan de politique, Eric le sait. C'était un traitement médiatique du matin au soir. Je me rappelle, j'étais au ski. J'avais pas pu skier qu'il est tombé des queues de lapin. Et j'étais sur les chaînes d'infos. Et on a non seulement fait un hold-up sur le fond du débat, parce qu'en parlant que de cette affaire, on n'a pas parlé des enjeux de la France, et en plus, on a un hold-up, on a été spolié de notre candidat, parce que François Fillon, moi je m'en fiche, moi c'était son programme qui m'intéressait.
Ouais, pareil pour moi.
Mais pourquoi, Marie-Hélène,
nos idées, elles n'ont pas été représentées et ça c'est très grave.
Non mais ça c'est vrai, Marie-Hélène.
C'est très grave.
D'abord, Marie-Hélène, je te rappelle.
Merci à la justice indépendante de ce pays. Hein,
mais elle est indépendante.
Oui, franchement. On a eu le mur des cons.
Mais attends, mais Laurent.
Le syndicat de la magistrature. Marie-Hélène,
je t'interromps une seconde. Madame elle n'est pas membre du syndicat de la magistrature.
Non. Et les trois magistrats qui ont été dans Haute-Burésie, etc. Il y avait des membres du syndicat de la magistrature qui ont été choisis. Non, laisse-moi finir ma phrase. Qui ont été choisis par ce magistrat quand même. Donc ils ont été choisis pour instruire l'affaire Fillon. C'était vraiment des gens qui ont été choisis. On sait très bien comment Serge Tournaire est arrivé dans cette affaire. Lui qui avait déjà massacré entre guillemets Nicolas Sarkozy, il est nommé pourquoi ? Parce qu'on se débrouille pour que la juge de permanence qui normalement doit être nommée passe son tour et deux jours après c'est à Tournaire d'être de permanence et là on attend que Tournaire soit là pour que ce soit lui qui instruise l'affaire Fillon. La deuxième chose
je te dis une deuxième chose
c'est qu'on parle du syndicat de la magistrature. Alors les gens qui sont à l'écoute, ils disent syndicat de la magistrature c'est pas bien grave, etc. Voilà, on les connaît, il y a eu le mur des cons, c'est pas très grave, ils vont s'occuper de Fillon. Je voudrais quand même rappeler la fameuse harangue de Baudot, un des fondateurs, Oswald Baudot, du syndicat de la magistrature, qui dit, messieurs, qui parle aux jeunes juges et qui leur dit, messieurs, soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance. C'est gentil tout ça, mais il parle à des juges. Hein. Pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Bref, on est quand même, pardon de parler d'idéologie, mais on est parfois avec certains juges, et il y en avait dans l'affaire Fillon qui sont ultra idéologisés, il faut le dire, merde. Ah oui, parce que derrière la formule, la justice est indépendante, elle est libre dans ce pays.
Aujourd'hui, tu as décidé de t'énerver et de ne pas écouter ce que je te dis.
Vas-y.
Très bien, on peut, hein. on peut faire ça. Ce que je te propose d'abord, c'est qu'on remercie Marie-Hélène. Je te répondrai dans un instant. Vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 3216. On va accueillir...
Ah, tu fais un petit teasing sur ta réponse.
Excuse-moi, je t'ai laissé parler. Tu es inarrêtable aujourd'hui. Là, mais je sais que ça te tient à cœur, cette histoire.
Mais là, tu auras tout le temps.
Tu es inarrêtable. Donc, j'espère pouvoir en placer une. Mais ça, ce sera dans un instant.
Mais t'en as
placé
plein.
Si vous voulez savoir quel est l'argument pour répondre à Eric, bah, vous restez avec nous. Brunet Neumann, on revient sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann. RMC, midi 14h,
Brunet Neumann.
Éric Brunet,
Laurent Neumann.
Bon, mesdames, messieurs, affaire Fillon, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? Pour Laurent, qui est face à moi, c'est non. Parce que Fillon avait, selon lui, déjà perdu avant que n'éclate l'affaire. Pour moi, Éric Brunet, la réponse est oui. J'estime que la justice et les médias ont quand même, de concert, main dans la main, volontairement, contribué à changer le cours de l'histoire. Voilà ma position, mesdames, messieurs. Alors, mon Laurent, tu voulais me répondre tout à l'heure et tu as fait un énorme teasing juste avant la pub. Tu as dit je te répondrai après la pub.
Oui, parce
de quoi
tu
s'agissait-il
dit, tu as dit non seulement on a accéléré le cours de la justice, mais sous la pression, on suppose sous la pression politique. Donc de qui? Le parquet, tu dis, c'est la chancellerie. La chancellerie, c'est l'Élysée. L'Élysée, c'était Hollande. Alors, dans ces cas-là, il faut essayer de comprendre à qui profiterait le crime, si crime il y avait. Or, François Hollande, il n'était plus candidat à l'élection présidentielle. Son ancien Premier ministre, Manuel Valls, avait déjà été battu. Il n'avait plus aucune chance d'être élu président. Donc, Hollande aurait fait pression sur la chancellerie, qui elle-même aurait fait pression sur la procureure, pour faire élire qui? Macron?
Je sais pas.
C'est une blague.
Non mais
c'est une blague.
Non mais
donc ça ne tient pas.
Non, mais...
Ça s'appelle une construction intellectuelle que je comprends très bien quand elle provient des avocats.
Non, mais...
Les avocats, ils font tout leur possible pour défendre leurs clients et je considère qu'ils ont tous les droits. Mais les autres, les journalistes, ceux qui raisonnent, il faut raisonner jusqu'au bout. Donc pourquoi François Hollande serait-il intervenu pour faire battre Fillon? Expliquez-moi, parce que moi je ne comprends pas.
Tu crois que ça serait
Non, réponds à cette question.
Ouais, je vais te répondre.
Pourquoi
ça serait la première pantalonnade et stupidité de François Hollande dans son quinquennat?
Ah,
François
donc
Hollande.
Il faudrait maintenant faire la démonstration que François Hollande est un abruti, pardonnez-moi l'expression.
Mais pourquoi tu fais ça? Ça ne t'honore pas de faire ça.
Si.
C'est
donc pourquoi François Hollande aurait-il fait ça?
Mais attends, déjà... c'est une tradition. Moi, j'ai fait de nombreuses vidéos sur cette affaire. Si tu veux l'histoire des cabinets noirs sous la Ve République, il y en a toujours eu. Sous Sarkozy, d'ailleurs, c'était Villepin qui était aux basses œuvres. Sous Hollande, il y en a toujours eu des cabinets noirs. C'est pas un cabinet tout noir,
pas
en noir. Voilà. C'est. Eh ben, je vais t'expliquer.
Ouais, je n'ai même pas osé de parler du cabinet noir. Tellement c'est ridicule.
Je vais t'expliquer.
Ouais, c'est toi qui en parles.
Donc, l'histoire est très simple. C'est que quand tu diriges un exécutif et qu'il y a une élection qui se profile, tu demandes à des collaborateurs, des ministres, etc., de bien vouloir trouver des boules puantes sur tes concurrents. C'est ça.
Mais il n'était pas concurrent, il n'était pas candidat.
Et or, à la moitié de son mandat, Hollande, bien évidemment, pensait qu'il allait se représenter. Et il s'est défilé à la fin de son quinquennat. Bon.
Mais le canard enchaîné, c'est le 24 janvier.
Mais j'entends bien. Mais l'affaire Fillon avait déjà été lancée.
Janvier.
Pas l'affaire judiciaire. Mais bien évidemment, les boules puantes, il y avait déjà des gens qui cherchaient sur Fillon, sur tous les candidats de la droite potentiels, c'est évident, voilà. Et après, cette affaire a été lancée un peu n'importe comment et déstabilisée. Et par ailleurs, déstabiliser un candidat de droite, c'est toujours bon. Et j'ajoute que il n'y a pas besoin de donner beaucoup d'ordres à des magistrats qui sont au syndicat de la magistrature. C'est une jubilation de se payer Sarkozy. C'est un vrai petit bonheur, c'est une gymnastique. Comme de se payer Fillon.
Je ne réponds pas à ma question. Pourquoi début février, quand François Hollande n'a plus aucune chance de devenir président de la République, pourquoi il aurait donné des instructions pour faire battre Fillon? Je ne comprends pas.
Non.
Je ne comprends pas la construction intellectuelle.
Je te dis juste que déstabiliser le candidat officiel de la droite, c'est toujours un petit bonheur, quelles que soient tes ambitions personnelles, c'est toujours un petit bonheur.
Il aurait fait ça de manière désintéressée, juste par idéologie, pour que la droite n'accède pas au pouvoir.
Et par ailleurs,
donc, pour aider Macron.
Quand on a des magistrats qui sont au syndicat de la magistrature, par exemple, ils n'y sont pas tous, puisqu'il n'y a que 22 ou 23%, il n'y a pas forcément besoin de leur envoyer des fax en 3 exemplaires pour leur demander d'intervenir. Je te le redis, il y a des juges dans ce pays qui se lèvent tous les matins en rêvant de se payer soit Sarko, soit Fillon. Enfin, c'était ça il y a quelques années.
T'es conscient qu'il n'y a aucune preuve de tout ce que t'avances. C'est des suppositions.
Hein. T'entendras dans la deuxième partie de l'émission, François Léman, qui va arriver, ancien magistrat et avocat, qui justement, lui, a publié un livre sur le sujet. Et je pense qu'avec François Hollande, il est plus précis que moi.
Et dans un instant, il y a une une journaliste qui nous a rejoint, c'est Pauline Rovna. Elle est l'auteur, elle est journaliste à BFM TV,
bien
évidemment.
Sûr. Hein. Elle a fait un très joli, superbe documentaire.
Qui a tué Fillon ?
Ouais.
Voilà,
on a vu plusieurs fois sur BFM TV.
Et François Fillon après le crash d'ailleurs. Il y a eu deux documents sur BFM TV. On va lui poser la question. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille voir Lisa Marie. Est-ce que tu peux nous donner, Lisa Marie, une première tendance, plutôt Brunet ou plutôt Neumann, ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
Eh bien, à la question, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle ? Vous êtes 75% à répondre oui, comme Eric.
Bah, tu vois, ouais. Les arguments convainquent.
Ouais. Voilà. Pauline.
Oui.
Bon, je sais qu'on a. Moi, j'ai adoré qui a tué Fillon et François Fillon après le cash. Sauf que je suis frustré. Il me manque cette dimension-là. C'est cette enquête sur la justice elle-même.
Parce que je fais qui a tué François Fillon un an jour pour jour après le Canard enchaîné. On vous rappelle que l'affaire éclate avec un article du Canard enchaîné et un article signé par deux journalistes que j'ai rencontrés pour le doc, qui évidemment nous explique. Pas vraiment comment est-ce qu'ils arrivent à leurs informations, parce qu'évidemment,
secret des sources, évidemment.
Voilà. Et moi, je déroule sur un angle humain, si vous voulez. Moi, ce que je cherche, c'est qui a tué François Fillon, comment est-ce qu'on l'explique, qui a porté... C'est le crime de l'Orient Express, souvenez-vous. Ils y sont tous avec leurs petits couteaux. Qui a planté les couteaux ? Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aidé. Et la conclusion de ce premier doc, qui a tué François Fillon, pour moi, c'était... C'est François Fillon lui-même, parce que ses travers, parce que son goût de l'argent, parce que les pièges de Robert Bourgis. C'était le premier doc. Ah oui. J'étais qu'un an après.
Terriblement
Pauline,
à voir
Pauline Eric, pardon.
Sur l'affaire des costumes.
Il faut rappeler quand même deux, trois choses. D'abord, il y a l'affaire de l'emploi fictif présumé de Pénélope Fillon. Ouais. Ça, c'est une première chose.
Puis il a refusé deux mondes.
Mais il y a eu l'histoire des costumes Arnise fournis par Robert Bourgis. Mais il y a eu l'emploi fictif de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes, pour lequel le patron de la Revue des Deux Mondes a été condamné à de la prison avec sursis. Il a même admis que oui,
c'était une procédure de plaidé coupable.
Il a admis que tout ça était totalement fictif. Donc ça fait quand même beaucoup. Et alors on peut reprocher à la justice d'avoir été trop vite. On peut inventer des procédures ou des constructions intellectuelles en disant c'est la faute d'un tel qui s'est fait appeler par un tel.
Il faudrait enquêter.
N'empêche que la question c'est est-ce que François Fillon s'est fait là.
L'affaire Oulette, on parle de cette affaire
donc
aujourd'hui.
Donc 10 juin, Éliane Oulette devant la commission d'enquête à l'Assemblée.
Ça vous inquiète pas plus que ça, tout va bien.
Ça nécessite
elle a un peu savonné, elle s'est trompée
pas
dans les mots
non,
quand
pas
elle
du
parle
tout ce
devant
qu'on dit, les.
Ça te donne pas, Pauline, envie de faire un numéro 3 de ton documentaire sur Fillon et la justice.
Mais bien sûr.
Ah ben alors, faisons-le.
Bah on y va là. Elle a parlé le 10 juin. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça à cœur ouvert?
Oui.
À qui profite le crime ? Est-ce que c'est un conflit personnel avec la procureure ? On sait qu'elles sont en conflit direct, ces deux femmes. Pourquoi est-ce qu'elles décident de se mettre à table ? À quoi ça sert ?
Pourquoi, il y a un an, elle a dit qu'il n'y avait eu aucune pression, et tout à coup, un an après, alors qu'elle est à la retraite, elle s'exprime devant une commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, pas du tout sur l'affaire Fillon, sur l'indépendance de la justice en général, et tout à coup...
Devant sept personnes,
heureusement que c'était filmé, parce que sinon personne ne l'aurait su. Un an après, elle dit « Ah bah oui, en fait, si, j'ai eu des pressions. » Je voudrais juste donner un argument, que les 75% de nos amis qui nous écoutent et qui sont d'accord avec toi. Écoute juste cet argument un instant. Si la justice n'avait pas été rapide dans cette histoire, imaginez...
On aura un bon président de la République.
Que n'aurait-on dit ?
Tu ne me laisses jamais aller jusqu'au bout parce que c'est l'argument qui te gêne. C'est l'argument qui te gêne et je le comprends. Imaginons une seconde que François Fillon ait été élu à l'élection présidentielle. Il aurait intégré l'Élysée. Ces faits-là, on les aurait connus. Ils auraient fait scandale. Il y aurait eu des articles dans la presse. Il y aurait même peut-être eu une enquête. Sauf que, président de la République, irresponsabilité pénale, pas de jugement. Ça porte un nom. Ça s'appelle l'impunité. Et donc, moi, je vais te dire, je suis plutôt satisfait que la justice ait été vite. Alors oui, je suis pas complètement dingue, je suis pas aveugle, j'ai compris, oui, tu as raison, que la justice a été plus vite pour François Fillon que pour bien d'autres.
C'est vrai.
Je pense par exemple à François Bayrou, dont on a cité le nom. Ça fait 2 ans qu'il attend que son affaire avance et rien n'avance. Oui, je veux bien l'entendre. Mais là, en l'occurrence,
la justice choisit d'être rapide avec, par exemple, la France Insoumise, avec le Rassemblement National. Je te pose la question, moi. Donc, elle a le droit de choisir comme ça, la justice. Elle choisit Fillon, on est rapide. La France Insoumise, on est rapide. Mais Bayrou, on est moins rapide.
J'inverse la question. Est-ce que c'était pas pour le bien commun pour le bien public, que la justice aille vite sur un candidat à l'élection
présidentielle. Dans ce contexte particulier,
cet homme nous aurait peut-être représenté pendant 5 ans dans le monde entier.
Mais qui est l'arbitre des élégances? Alors la justice, elle aurait pu aussi dégager De Gaulle. Elle aurait pu dire tiens, Pompidou, c'est pas bien dans cette affaire parce que il y a des rumeurs sur la légèreté de sa femme. Non, mais je vous pose la question.
Mais qui statue? De Gaulle n'a rien fait de mal.
Non, mais j'en sais rien. T'en sais rien. Bon, alors si tu veux chercher, tu rigoles ou quoi?
Je peux te faire écouter un son de
service d'action civile.
Je peux te faire réécouter ce que disait François Fillon. Sans ta campagne?
Non, mais tu peux le faire écouter. Rassure-toi, on l'a entendu tous les jours pendant 3 ans sur le général de Gaulle, j'imagine. Allez, on écoute. Allez,
écoute François Fillon.
Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen?
Et ben voilà, la justice a appliqué à la lettre ce que François Fillon réclamait pour tous les autres. Et bien la justice l'a appliqué à François Fillon. C'est formidable, non?
Il n'a pas été condamné encore, Fillon.
Je sais bien. Voilà. Mais tu as vu la première phrase, ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Oui, et donc ça aurait été quand même bizarre d'envoyer à l'Élysée quelqu'un à qui on reprochait tous ces faits.
Non, mais si tu vas.
Sans préjuger de sa culpabilité, d'ailleurs.
Si tu vas chercher la petite bête, depuis que la France est France, depuis le 5e siècle et Clovis, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un président sur lequel tu ne peux pas trouver une affaire, statuer et dire regardez, c'est un scandale de Clovis à Macron. J'imagine qu'il y en a plein. Si ça t'amuse, il y en a plein.
Je te rappelle que pendant la campagne.
Sur Hollande, il n'y a pas eu des scandales sous Hollande, sous Sarkozy, il y en a eu des dizaines.
Comme tu as de la mémoire, Eric. Tu te souviens que certains, pendant la campagne présidentielle, ont tout fait. Ils ont remué ciel et terre pour trouver quelque chose pour empêcher Macron d'être candidat. Ils ont tout fait. Ils n'y sont pas parvenus. Oui. Là, on a trouvé sur Fillon. Bah ouais, pas de chance pour lui.
Mais justement, il cachait moins bien.
Sans doute.
Fillon, ça a duré 30 ans quand même.
Fillon, lorsqu'il arrive devant le parquet national financier, devant les magistrats, vous savez, il y a cette fameuse, c'est ce fameux procureur qui lui dit au Moyen-Âge, ce que vous avez fait aurait été condamné par la peine de mort, délicat. Il répond la chose suivante, il déploie une petite feuille, tu as vu ces images, hein, Pauline, 21-29-7, et il lit, il y a deux phrases que je vous lis, hein. Il dit ça devant Houlette et devant les juges. J'ai été condamné sans appel, il y a 3 ans, par le tribunal médiatique. Ma vie, celle de ma famille, ont été fouillées dans les moindres recoins pour tenter de relayer une accusation dont l'objectif était clair, m'empêcher de concourir dans des conditions normales à l'élection présidentielle. Les dégâts sont irréparables. Pour l'élection présidentielle, bien sûr, pour le courant de pensée que je représente, quelle que soit d'ailleurs votre décision, rien n'y changera. Et puis il y a notre honneur. C'est cet honneur que nous allons essayer de défendre. Bon, moi, je n'enlève rien de ça.
Mais nous non plus.
Moi non plus.
Formidable, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Ça veut donc dire. Vous êtes d'accord quand il dit j'ai été condamné sans appel il y a 3 ans par le tribunal médiatique. Vous êtes d'accord?
Absolument.
Oh, bah, très bien.
Absolument d'accord.
Et on attendra la décision lundi 29 juin.
Je vais même aller plus loin. Figure-toi, Eric, je déteste le lynchage. Et la manière dont ça s'est passé, moi aussi, m'a donné des haut-le-cœur. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que François Fillon a commis ses faits ou pas? Et ça, je le saurait lundi. Vous continuez à nous appeler, les amis. On vous attend, vous êtes déjà très nombreux. Au 32-16, est-ce que la justice a, oui ou non, faussé l'élection présidentielle de 2017? Brunet Neumann revient dans un instant avec nos invités sur RMC, évidemment.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann. RMC,
midi 14h.
Brunet Neumann.
Bon, mes petits amis, la question est très simple. Affaire Fillon, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle, mon Laurent?
Est-ce qu'on lui a volé son élection?
On lui a volé, bien. Pour moi, c'est oui. Pour Laurent, c'est non. Et on va
Stéphane.
Retrouver
Stéphane.
Salut Stéphane.
RMC, Brunet Neumann.
32-16.
Il nous appelle de Paris. Salut Stéphane, bienvenue sur RMC.
Salut à tous, bravo pour votre émission et surtout bravo à Pauline pour son remarquable documentaire.
Elle est à côté
fois.
De moi, elle rougit.
Un vrai travail de journaliste et ça faisait plaisir que cela soit fait, même aussi rapidement, parce que c'était remarquablement bien fait.
Merci Stéphane.
Ceci dit, moi je voudrais dire une chose, surtout aux électeurs de droite, on va dire aux 90% de ceux qui ont voté Fillon et qui sont persuadés qu'un complot horrible, que les forces noires, rouges ou je ne sais, ont eu sa peau. François Fillon s'est suicidé tout seul, comme un grand, sans l'aide de personne. D'une part, avec une campagne de primaire du premier tour qui a été très très à droite et où il a passé plus de temps à attaquer Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qu'à faire la promotion de ses idées. D'autre part, que de quoi se souvient-on du programme de François Fillon et quelle aurait été sa politique dans les circonstances actuelles?
Ah bah moi, je peux te le dire, Stéphane, hein, 500 000 fonctionnaires de moins, voilà. la retraite à 67 ans.
Excellent, travailler, tout ça.
Travailler 39 heures en étant payé 35, et je ne te parle pas de ce qu'il proposait sur la sécurité sociale.
Ouais,
quand tu viens de voir l'épidémie qu'on a traversée et le problème des soignants, je ne te dis pas.
Ouais, le RSA pour tous, c'est vachement mieux. Le RSA pour tous, c'est vrai que ça a plus de gueule.
Un autre point. Qui, moi, m'a profondément choqué dans la campagne de François Fillon, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, et qu'il ait défendu cette idée de complot pour essayer de se justifier, ça, je peux le comprendre en tant qu'individu face à l'affaire de justice. Mais comment pouvait-il croire, avec les affaires qui apparaissaient, qu'il pouvait rassembler au second tour? Qu'est-ce qu'aurait fait une Marine Le Pen si elle avait été en face de lui au second tour? Ça aurait été un massacre! Un massacre! Je ne comprends pas que quelqu'un comme François Fillon n'ait pas compris dès le départ que toutes les casseroles qui commençaient à tomber provoquaient un vacarme que tout le monde entendait. Il s'est suicidé tout seul, c'est dommage, je le regrette pour la droite.
Stéphane,
les électeurs de droite comprennent qu'ils ne peuvent pas avoir des candidats qui se comportent ainsi.
Stéphane, juste, pardon de t'interrompre, mais j'ajoute juste un argument. Moi, j'entends l'argument des électeurs de droite qui disent, du coup, nos idées n'ont pas pu être représentées de façon sereine. C'est vrai ?
C'est vrai.
Mais qu'est-ce qui a empêché François Fillon de dire, écoutez, compte tenu de l'affaire qui me tombe sur le coin du nez, il faut que je me défende, je me retire. Il l'aurait dit très tôt.
Mais c'est ça, trois semaines avant le présidentiel.
L'élection, c'était au fin avril.
Dès le début.
On parlait du
24 janvier.
Voilà.
Dès le début, il aurait dit dès la première attaque.
Il le sait, lui, ce qu'il a fait dans l'affaire Pénélope.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah bon. Tu touches à une dimension qui est du ressort psychologique. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient très proches de Fillon et qui ont dit, après l'échec de Fillon à la présidentielle,
qui
lui ont dit je te parle de ses chargés de communication, qui lui ont demandé pourquoi ne nous avez-vous pas dit avant l'élection pour cette histoire Pénélope Fillon de votre épouse, et je t'assure qu'ils m'ont répondu. Il y a eu un moment tout à fait inouï au restaurant, Fillon a eu les yeux qui ont brillé, une larme a coulé, et il a dit, parce que jamais ces faits-là, je ne me suis senti coupable de ça avant la présidentielle. Voilà,
c'est de mais ça, alors, c'est de l'impunité, non, de ne pas se sentir.
Non, c'est que je pense, c'est un autre truc. C'est peut-être, si vous voulez. Moi, je pense simplement que Fillon a fait ce que beaucoup de parlementaires faisaient à l'époque. Ça commence aux années.
Tout le monde n'était pas candidat à la présidentielle.
À la fin des années 90. Et que, comme beaucoup de gens, il a peut-être obturé, il a peut-être considéré que c'était une habitude à laquelle, d'ailleurs, il avait mis un terme. Voilà, c'est tout. Arrêtez de le présenter comme un perceur de coffre-fort, quand même.
Eric, je perceur de coffre-fort, j'ai quand même pas été jusque là, mais enfin il y a 1 million d'euros quand même qui sont passés à l'as dans cette histoire.
Attends, 1 million d'euros sur plus d'une décennie, vous me faites marrer. Présenter les chiffres comme ça, on a l'impression que c'est un perceur de coffre-fort. Simplement, c'est sur plus de 15 ans
public, hein, visiblement.
Non.
Allez, on va remercier Stéphane qui nous appelait de Paris. Pauline Revena, journaliste à BFM TV, est toujours avec nous. Qui a tué Fillon? C'est elle qui avait fait ce formidable document pour BFM TV.
Elle a dit qu'il y aurait peut-être un troisième volet sur la justice.
Dans un instant, et c'est une raison supplémentaire pour rester avec nous dans Bruno Neumann, on reçoit Hervé Léman, il est avocat, c'est lui qui a écrit le livre Le procès Fillon, et je peux vous dire, les amis, qu'il a des arguments et qu'il va falloir s'accrocher. Ouais. Vous restez avec nous, Bruno Neumann, on revient dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 14h.
Bruno Neumann, il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
Bonjour les amis, c'est Éric Brunet.
Des rebondissements dans l'affaire Fillon. Oui, ça bouge et ça fait beaucoup causer. On vous pose une question, elle est extrêmement simple les amis. Est-ce que François Fillon s'est fait voler sa victoire à la présidentielle? Est-ce que la justice a faussé l'élection présidentielle? Tiens, je reçois même des messages me demandant s'il ne faudrait peut-être pas refaire l'élection présidentielle de 2017.
Oui,
dit Éric Brunet, le filloniste. Ben, on a envie de connaître votre avis, les amis. C'est parti.
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Moi, c'est simple, c'est clair. Pour moi, la justice et les médias, main dans la main, consciemment et parfois un peu aussi inconsciemment, ont changé le cours de l'histoire. Voilà.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Alors, deux réponses à ça. Évidemment, moi, pour moi, c'est non, c'est trois fois non. Mais pour deux motifs au moins. D'abord, un, parce que politiquement, je prétends que François Fillon avait déjà perdu l'élection présidentielle avant même que l'affaire n'éclate. Et aujourd'hui, en 2020, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. C'est pas de savoir si on a été trop vite, si la justice a été trop rapide, si elle a maltraité François Fillon. Non, la seule chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que François Fillon, oui ou non, a commis les faits qui lui sont reprochés. Et ça, normalement, si tout va bien, ce sera lundi à 13h30, tribunal correctionnel de Paris, les amis.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Alors, je vous rappelle la question que l'on vous pose aujourd'hui. La justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? C'est le moment de départager Éric et Laurent. Et pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux. La page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et de Laurent et la page Instagram RMC Off.
Alors sur la question de cette justice qui s'est mise en branle avec une rapidité inouïe, remarquable, et François Fillon n'a pas été dupe du tout. Dès le mois de février 2017, il avait repéré qu'il y avait un truc pas normal du tout. Écoutez Fillon.
Le parquet financier s'est saisi en 24 heures. Les premiers témoins ont été entendus en 48 heures pour se saisir de cette affaire. Ça fait beaucoup.
Voilà, on vous présente notre invité, mesdames, messieurs, qui rejoint à l'instant Pauline Revenat, journaliste à BFM TV, qui avait fait plusieurs documentaires sur Fillon. Qui a tué Fillon, François Fillon après le crash. Elle est avec nous, elle reste avec nous, mais nous accueillons maintenant Hervé Léman. Bonjour Hervé Léman.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous avez été magistrat. Vous avez publié un livre, Le procès Fillon, aux éditions du Cerf, il y a un petit moment déjà. Et à l'époque, vous avez un peu plaidé dans... Écoutez pas, quoi. Vous êtes venu, vous avez été un des rares à dire, sur le plan de la justice, il s'est passé des trucs très bizarres, mais bon, on vous prenait pour un affreux complotiste, maître.
Oui, absolument, c'est ce qu'on me disait. Alors, le complot, le cabinet noir.
Oui, c'est ça, le cabinet noir. Je connais, j'ai mon domaine, moi aussi.
Voilà, très amusant. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'histoire. Me donne raison. Une petite satisfaction si vous
qu'est-ce qui vous donne raison concrètement pour ceux qui n'ont pas suivi, qui nous écoutent là.
Alors, pour répondre à la question, moi, ma réponse, elle est très claire. Oui, bien sûr, pas la justice, mais quelques magistrats, une poignée de magistrats, soigneusement choisis et soigneusement nommés par François Hollande, ont faussé l'élection présidentielle. Comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont fait en sorte que François Fillon soit mis en examen avant l'élection présidentielle, ce qui évidemment rendait quasiment impossible son élection. Et ce mécanisme que j'ai décrit précisément dans mon livre, il a été mis en évidence par les déclarations de François Oulette, d'Éliane Oulette, pardon.
La patronne du parquet national financier.
Il y a beaucoup de François dans cette affaire. Hein, François Hollande, François Fillon.
La patronne du parquet national financier nommée par Christiane Taubira.
La patronne du parquet national financier, exactement. Qui a déclaré deux choses très importantes. La première, c'est qu'elle a subi des pressions continues et incessantes de la part de sa hiérarchie, c'est-à-dire de la procureure générale elle-même choisie et nommée par François Hollande. Et surtout, qu'elle a reçu des instructions d'ouvrir une information judiciaire. C'est un petit peu technique, mais c'était le seul moyen que François Fillon soit mis en examen avant l'élection présidentielle.
Pauline Revenat, qui est là, et puis Laurent Neumann, dans la première partie de Brunet Neumann, m'ont objecté toujours cet argument, mais c'est absurde. François Hollande, à cette époque-là, n'est plus candidat. Pourquoi ferait-il un truc pareil? À qui profite le crime? Votre théorie est complètement
fumeuse. Manuel Valls a perdu la primaire. Bref, il aurait donc fait tout ça pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron, ce qui paraît quand même assez peu probable.
Alors, attendez, quelqu'un vient d'arriver. C'est Tuc Duhal, jeudi.
Tu m'as cru dans la conversation.
Tuc Duhal, Denis, non, mais je présente Tuc Duhal. Il est directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et il sort aujourd'hui la vérité sur le mystère Fillon, les secrets d'un homme, le serment d'une famille aux éditions Plon. Merci de ne pas nous avoir envoyé le bouquin, on est foudrage, Laurent Neumann.
Non, mais je suis désolé.
Il sort aujourd'hui.
Pauline
Revenat
l'a reçu, et toi et moi, on l'a pas reçu.
Et Lara Tchekhov à BFM aussi l'a reçu, donc je suis désolé, je suis vraiment coupable.
Tuc Duhal, on reviendra sur ton livre dans un instant, mais c'est un livre tout à fait particulier, puisque c'est une, j'ai envie de dire que c'est une promenade, d'après ce que j'ai pu en lire, au sein de l'intimité des Fillon, à côté des Fillon, chez les Fillon, ouais. Dans ces deux années difficiles, tu les as suivis,
je vous en parlerai tout à l'heure, mais peut-être pour répondre à Laurent Neumann, parce que effectivement, à qui profite le crime? En fait, faut quand même pas oublier qu'à cette époque-là, à l'Élysée,
si crime il y a,
crime il y a eu, puisque en tout cas, il y a eu un candidat empêché. Ça, c'est pas un crime. S'il n'a pas de bonne raison valable d'être empêché.
On saura lundi.
Moi, j'ai lu le bouquin d'Hervé Lehmann et honnêtement, j'ai pas attendu les déclarations de Madame Houlette. Ça fait 2 ans que j'ai lu le bouquin d'Hervé Lehmann et c'est extrêmement probant. Enfin, je veux dire, ces 200 pages, monsieur est quand même très fort sur les affaires juridiques. Honnêtement, il démonte. D'ailleurs, sans émoi, sans outrance, sans excès, il démonte vraiment la mécanique effectivement de ce parquet national financier que aujourd'hui tout le monde appelle à abolir. En fait, à l'Élysée, pour revenir au plan politique, à qui profite le crime? Vous avez quand même à cette époque-là un secrétaire général de l'Élysée qui s'appelle Jean-Pierre Jouyet, qui est un ami d'enfance de François Hollande. Ils ont fait le service militaire ensemble. Qui a été par ailleurs ministre de François Fillon. Il a un parcours personnel assez varié.
Mais sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Sous la présidence de Sarkozy. Mais c'est surtout Jean-Pierre Jouyet, le parrain, dans tous les sens du terme d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a initié aux délices de la vie parisienne, il lui a présenté énormément de monde, il a poussé Emmanuel Macron...
Donc là, vous dites quoi, en fait?
Comment?
Là, vous dites quoi?
Je me dis qu'il y a des gens à l'Élysée qui, à l'époque, ont intérêt à ce qu'Emmanuel Macron devienne président de la République. En tout cas, qui, clairement, ont des raisons très objectives de préférer Emmanuel Macron à François Fillon.
Donc, si j'entends bien, dans la construction intellectuelle de ce fameux crime judiciaire, donc ce serait pas François Hollande, finalement, ce serait le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, qui, parce qu'il est proche de Macron, aurait fait chuter François Fillon pour faire élire Emmanuel Macron. Et comment aurait-il fait? Il aurait donc demandé au parquet général de donner des ordres à la procureure du parquet général.
J'ai pas dit que Jean-Pierre Jouyet avait pris son téléphone et avait appelé Madame Houlette. Ce que vous dites, à l'Élysée, personne n'avait intérêt. François Hollande n'était plus candidat, donc de toute façon, il s'en fichait de l'élection présidentielle, de savoir qui l'emporterait entre Macron et Fillon. Non, vous doutez bien que, y compris François Hollande, préférait que ce soit Macron qui soit élu parce que c'est quand même son protégé. Et même s'il y avait une espèce de blessure d'orgueil de voir que le poulain avait dépassé les talons, mine de rien, c'était quand même plus une victoire de François Hollande. D'ailleurs, à l'époque, on disait Macron, ça sera l'acte 2 du hollandisme.
Tuc Dual, et je pose la question à Hervé Lehmann aussi. Est-ce que vous avez un début de preuve de ce que vous avancez?
Moi, je ne suis pas dans la construction intellectuelle. Je n'ai jamais employé le mot de complot, et ce n'est pas mon propos.
Ni de cabinet noir, je dois le dire.
Ni de cabinet noir. Mon propos, c'est comment a fonctionné la justice dans notre pays pendant l'élection présidentielle. Est-ce que ça a fonctionné de manière normale ou est-ce que ça a fonctionné de manière anormale? Et c'est évidemment la deuxième réponse qui est la bonne. Vous avez ce parquet national financier qui se précipite sur cette affaire qui n'est pas de sa compétence. C'est le premier manquement. Je ne sais pas ce qui est derrière, mais le premier manquement, c'est que le parquet national financier a été créé pour les affaires d'une grande complexité. Et voilà qu'il se saisit de cette affaire d'une grande simplicité. Est-ce qu'un assistant parlementaire de la Sarthe a travaillé ou pas? Premier manquement qui permet de déclencher l'affaire avec une rapidité déconcertante. Le deuxième manquement, effectivement, ça va être les pressions du parquet général. Encore une fois, je ne suis pas dans le complot, je ne sais pas qui, que, quoi, dans où, mais ce que je sais et ce qui a été déclaré sous serment devant la représentation nationale par Éliane Houlette, c'est qu'elle a subi des pressions très dures. Elle a dit que c'était très difficile à supporter.
Étroite et incessante,
vous avez raison. Elle dit qu'elle était dans une position de soumission, de dépendance par rapport à la hiérarchie. C'est un deuxième fonctionnement anormal.
Et le troisième... On parle bien de la magistrate, de cette juridiction d'exception. D'ailleurs, qui normalement devrait être interdite en France. Absolument. Le parquet national financier qui a la charge du procès Fillon et qui dit j'ai subi des pressions, tu disais, incessantes et étroites. Moi, ça m'interroge.
J'ajoute juste un élément, parce que c'est une vraie question. Il faut tout dire.
Oui.
Éliane Houlette a aussi considéré qu'il y a eu pression ou pas pression. Admettons même qu'il y a eu des pressions. Elle a considéré qu'elle devait, en toute indépendance, ouvrir une information judiciaire.
Alors non, la réponse est non. Ce n'est pas en toute indépendance.
Et d'ailleurs, pardon, je vais jusqu'au bout de ma phrase. qui a conduit à l'ouverture d'une instruction, qui a conduit à un procès où le réquisitoire est absolument terrible.
Oui, bah, la durée de la défense était pas mal non plus.
Évidemment,
Antonin Lévy, pendant 4 heures, il a démonté pièce par pièce.
Évidemment, le réquisitoire,
dans une plaidoirie à la fois enlevée et très précise, les arguments du parquet.
Le réquisitoire, c'est le procureur national financier aussi. Et je peux vous dire que c'est également extrêmement choquant. Quand vous avez un procureur de la République dans ce pays, de la République, hein, pas le procureur du roi, qui se lève à l'audience et qui vient dire sous l'ancien régime, vous auriez été pendu.
Oui.
Ouais. C'est quelque chose.
Il a dit ça au couple Fillon
le premier jour du procès. Ouais.
J'ai 40 ans d'expérience professionnelle, hein, côté juge et côté avocat. Je n'ai jamais entendu un procureur dire ça, même dans les affaires les plus sordides de torture d'enfants. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement choquant. Et en effet, je crois que ce parquet national financier, qu'il faut appeler un parquet national politique, a perdu sa légitimité.
Le PNP, le parquet national politique, formule de notre invité, François Léman, avocat.
C'est riche aujourd'hui, hein. On a trois invités.
François Léman, ancien magistrat et avocat.
Je voudrais juste qu'on aille faire un petit tour du côté du 32-16.
RMC, Brunet-Neumann,
32-16.
Il y a Jean-Étienne qui est avec nous, il attend depuis un petit moment. Bonjour Jean-Étienne.
Bonjour Jean-Étienne.
Oui, bonjour.
Où es-tu, mon cher Jean-Étienne?
Merci de me prendre avec vous.
Tu nous appelles de Pau, Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'abord?
Comme j'ai 72 ans, je suis retraité. Je sais pas si
c'est une très belle, c'est une très belle occupation. Tu es plutôt Éric Brunet ou Laurent Neumann aujourd'hui?
Ah, c'est pas plutôt, c'est totalement Éric Brunet.
Argument.
Complètement, à 110%.
Alors tes arguments, mon cher Jean-Étienne.
Eh bien, j'ai compris de quelques articles de presse que l'usage, quand un candidat était soupçonné de quelques malversations, que pendant une campagne électorale, on lève l'épée de Damoclès et qu'on laisse le processus démocratique se poursuivre. Là, ça n'a pas été le cas, et vous l'avez tous dit avec une célérité.
Bah si, le processus démocratique est allé jusqu'à son terme. Il a d'ailleurs failli être au second tour, Fillon. Il y avait quoi, 600 000 voix d'écart,
je crois. Oui, j'entends bien. Sauf quand le candidat, tous les trois jours, on sort une bricole sur lui. Enfin, une bricole ou pas une bricole, mais je veux dire, il y aurait dû y avoir suspension totale. À mon avis, hein, c'est ce que j'ai compris.
Comment d'ailleurs, Jean-Étienne, Tuguel Denis de Valeurs Actuelles ou Hervé Léman, avocat auteur du procès Fillon, comment encore une fois on a foulé au pied, je sais que c'est une habitude en France, mais la présomption d'innocence, comment on a pu balancer tous les deux trois jours, série Netflix, un feuilleutonnage remarquable avec des éléments.
C'est ça le drame de cette campagne, et que honnêtement Laurent Neumann est de mauvaise foi quand il dit Madame Houlette en toute indépendance. Elle est passée de l'enquête préliminaire à l'ouverture d'une information judiciaire. Non, c'est pas en toute indépendance, et c'est pas un procès équitable. Alors pardon de parler de mon livre, mais François Sureau, qui est écrivain et avocat, explique ça à la fin de l'ouvrage, que ce qui s'est passé pour François Fillon, c'est le signe aussi de la fin du procès équitable, de la présomption d'innocence. Le parquet national financier est le plus grand violeur du secret de l'instruction qui soit en termes d'instance judiciaire dans le pays. C'est-à-dire que vous êtes auditionné le lendemain, mais voire trois heures après, il y a votre déposition, elle est bien évidemment, en général, que la partie qui vous met.
Disons la vérité, Tuguel, c'est pas seulement dans l'affaire Fillon, c'est dans toutes les affaires.
Mais d'accord,
on aurait pu en attendre un comportement spécial.
La fin des procès équitables en France et de la présomption d'innocence, bien évidemment, qu'elle doit être rétablie pour les gens de gauche, les écolos, les véganes et qui vous voulez, hein, pas que les gens de droite.
Beaucoup de gens, pardon de le dire, la France Insoumise, au Rassemblement National, se sont emparés de l'affaire Fillon pour dire, mais quand on vous le dit.
Évidemment.
Mais enfin, je suis désolé.
Ils auraient tort de s'en priver.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le PNF qui a commencé. Hein.
Vous savez ce qu'avait dit Philippe Séguin, Édouard Balladur, parce que Édouard Balladur, quand il était Premier ministre, c'est lui qui avait mis cette règle en place. Il avait demandé à tout ministre qui était mis en examen devait démissionner. Et Séguin est allé voir Balladur, il l'avait averti. Et Séguin, qui est quand même un grand juriste, hein, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas avoir de respect pour l'état de droit et les institutions, avait dit à Balladur attention, ce seront les juges bientôt qui feront les gouvernements si tu fais ça. Et bien évidemment, à partir du moment où vous donnez à un juge le pouvoir d'influencer la décision politique ou les destins des uns et des autres, et ben certains, parce que effectivement je suis d'accord avec Monsieur Lehmann, tous les magistrats sont pas comme ça, mais certains bien évidemment usent et abusent de ce pouvoir.
Vous restez avec nous les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16, on a besoin de votre opinion, plutôt Brunet, plutôt Neumann, on garde tous nos invités. Il faudra peut-être quand même à un moment donné qu'on parle des faits les amis. Oui. Moi je veux bien qu'on parle de la procédure judiciaire, qu'on fasse des montages incroyables, mais il y a quand même eu un procès dont on attend d'ailleurs le résultat, le jugement lundi prochain si tout va bien, et on verra si François Fillon a été victime d'une procédure injuste ou pas. Ce qui intéresse les Français, les citoyens, peut-être de savoir si les faits qu'on lui reproche, il les a commis ou pas, et ça, il n'y a que la justice qui peut le dire, ni toi Eric, ni moi. On vous attend les amis, Brunet Neumann, on revient sur RMC dans un instant, à tout de suite.
Midi 14h,
Brunet Neumann,
Eric Brunet,
Laurent Neumann.
Affaire Fillon, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? Pour moi c'est oui, pour Laurent Neumann c'est non. Autour de la table, en direct dans Brunet Neumann sur RMC, Pauline Revenat, journaliste à BFM TV qui a fait les docus sur Fillon, Hervé Léman, ancien juge, avocat, auteur de Le procès Fillon, et puis Tuc Dual, Denis, directeur de la rédaction, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, qui publie aujourd'hui la vérité sur le mystère Fillon, les secrets d'un homme, le serment d'une famille. Avant de voir comment vous votez, Tuc Dual, c'est important, peu de gens ont parlé de Fillon, du Fillon d'après la présidentielle. Vous faites partie des rares personnes qui l'ont côtoyé. Comment est-il? Comment va-t-il? Que pense-t-il de tout ça? Est-il guéri? Est-ce que tout ça a cicatrisé? Et Pénélope, alors, comment ça se passe chez les Fillon?
Alors, moi, je suis parti du principe qu'en fait, il y a deux choses qui ont empêché la campagne de François Fillon. C'est les affaires judiciaires, mais aussi tous les portraits de personnalités qui en ont découlé. Parce que si vous voulez, ça a été une fusée à deux étages ou un double effet qui se coule. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais à partir du moment où le PNF ouvre l'enquête, vous avez des portraits de François Fillon qui tombent, personnages pas méconnus des journalistes politiques jusque-là, et tout d'un coup, complètement inversé. On nous avait parlé pendant 20 ans d'un personnage sobre, bien sous tout rapport, et tout d'un coup, on a des portraits d'escrocs absolus. Et ça m'intriguait un peu. Enfin, je me disais, on n'a pas eu le.
Un homme passionné par l'argent, on a dit.
Oui, mais on parlait de dissimulateurs qui avaient l'argent honteux, etc. Et donc, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce gars-là que moi je regardais petit à la télévision et qui j'ai vu aussi faire une très bonne campagne de la primaire, ou est-ce qu'il y a autre chose dans la personnalité Fillon? Donc je l'ai vu en mars 2019 et je lui ai dit bah voilà, j'aimerais bien faire un livre sur vous, mais en revanche je suis pas avocat, j'ai pas les compétences pour ça, et moi ce qui m'importe c'est quand même de voir si oui ou non vous êtes un salaud quoi. Et donc pour ça j'ai besoin de en fait de pas parler à vos collègues de la politique qui vous connaissent assez peu, des amis il en a quasiment aucun, donc j'ai besoin de voir votre famille, et il a 5 enfant incroyable, une femme et Pénélope, et il a 2-3 amis dont Henri de Casse, François Sureau, des gens comme ça. Et donc j'ai passé un an avec eux, on a bu du vin, on était à la chasse, je suis allé en week-end à bosser avec ma femme et mon bébé
dans la Sarthe
et chez eux, etc. J'étais pétrifié avant d'arriver, mais finalement ça s'est bien passé. Enfin surtout au début je devais y aller tout seul, et puis la veille il m'a dit mais pourquoi vous n'êtes pas avec votre femme et votre bébé? Donc je me suis dit bon bah allez, foutu pour foutu dans la compromission, on y va. Et en fait c'était mieux comme ça d'être en famille, parce que c'est quand même moins gênant de prendre le petit déjeuner en famille quand vous avez aussi la vôtre avec vous. Et honnêtement, j'ai découvert un gars, oui, qui avait des goûts précis et précieux, mais j'ai pas découvert quelqu'un de show-off, j'ai pas découvert quelqu'un de bling-bling, j'ai pas découvert quelqu'un d'arrogant, j'ai pas découvert quelqu'un de cupide. C'est un mec déjà super intéressant pour commencer. Vous pouvez parler de la Chine comme de l'intelligence artificielle ou de ses années avec Sarkozy et Chirac, et il aura toujours des anecdotes incroyables et des raisonnements plutôt sophistiqués à vous proposer. Et puis j'ai découvert une famille qui était complètement meurtrie par ce qui s'est passé. C'est quand même, ils se sont pris un crash en plein vol, et c'est un espèce de nuage noir, vous savez, comme dans les bandes dessinées, qui flottait au-dessus de leur tête là jusqu'aux déclarations de Madame Houlette entre 2017 et maintenant. C'est vraiment une famille.
J'étais persuadé qu'ils allaient se séparer. Non, ils sont toujours ensemble.
Non, mais honnêtement, on aurait pu se poser la question. Effectivement, Pénélope aurait pu reprocher à François de l'avoir mis dans un tel pétrin.
Elle ne veut plus qu'on l'appelle Pénélope, c'est vrai ça?
Oui. En fait, elle est traumatisée parce que le Pénélope a été suivi d'un suffixe pendant la présidentielle.
Le
Pénélope Gate, et pour elle, qui honnêtement, vous pouvez lui faire tous les reproches que vous voulez, mais il y a deux trucs qui sont extrêmement sûrs sur cette femme, c'est que elle est honnête, je le dis, et qu'elle recherche tout sauf la notoriété. Et ben tout d'un coup, elle était à la une de tous les journaux de France et de toutes les télévisions comme le le parangon de la malhonnêteté et avec une exposition médiatique. Enfin,
on l'a fait passer, si je dis bien, pour la victime consentante.
Elle a signé les
contrats. Oui, bah, moi j'ai découvert une femme et je crois que je la décris comme ça. C'est la chef de famille. Hein. C'est pas la Pénélope effacée qui subit tout. Alors, c'est elle qui a élevé ses enfants, c'est elle qui s'est dit merde à François Fillon, c'est elle qui a relu le livre Fer pour lui dire que tel ou tel passage était pas bon. C'est une vraie chef de famille, par contre, qui déteste la publicité. Quoi.
Ouais. Et donc il faut l'appeler désormais, elle veut plus.
Penny ou peine.
Comment est-ce que ça vote, mesdames, messieurs, sur ce sujet assez sérieux qui revient sur le devant de l'actualité? La justice a-t-elle volé l'élection présidentielle de François Fillon?
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Eh bien, vous êtes toujours de l'avis d'Éric. Vous êtes 69% à nous répondre oui, la justice a faussé l'élection présidentielle. Donc n'hésitez pas à continuer de voter, nous envoyer tous vos messages.
Ok. On prend un 32-16.
Bah ouais. Oui, peut-être une question quand même à Hervé Léban, parce que il peut se passer quoi maintenant? On a bien compris que les avocats de François Fillon avaient demandé un supplément d'information. Bref, en gros, ils demandent au tribunal correctionnel de rouvrir les débats d'une certaine manière. Mmh. En même temps, ce supplément d'information
suite aux déclarations du PNF.
Ah oui. Et puis parallèlement, le président de la République Emmanuel Macron a saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour savoir si tout s'était déroulé conformément au droit et à la procédure ou pas. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, le juriste, moi. Oui. Nous, on n'a pas la réponse avec Eric. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que le président du tribunal, le tribunal correctionnel de Paris, dise lundi, on sursoit à statuer, on va attendre déjà la décision du Conseil supérieur de la magistrature, voire même accepter un supplément d'information? Est-ce que ça peut arriver?
Oui, vous avez raison, c'est une très bonne question. C'est un suspense. On ne sait pas. Les avocats des époux Fillon ont demandé au tribunal de réouvrir les débats et le tribunal va se prononcer lundi. Donc il y a deux hypothèses. Soit le tribunal prononce son jugement, soit le tribunal réouvre le débat. Je crois que dans les deux cas, de toute façon, le tribunal est dans une situation délicate parce que les révélations d'Éliane Houlette plombent quand même la procédure. Oui. Et elles plombent la procédure parce que c'est pas seulement le fait qu'elle a reçu des instructions, c'est que ces instructions écrites, Éliane Houlette parle d'une dépêche. La procureure générale parle de préconisation.
Qui n'a pas été versé au dossier d'ailleurs.
Exactement.
C'est très bizarre.
Exactement. Bon. Ça n'a pas été versé au dossier, ce qui est illégal.
C'est quoi, c'est un vice de procédure,
l'article 36 du Code de procédure pénale dit que lorsqu'il y a des instructions écrites de la procureure générale, ce qu'elle-même a qualifié dans une autre audition de quelque chose de tout à fait exceptionnel, donc elle a bien eu un comportement tout à fait exceptionnel dans cette affaire, ces instructions écrites doivent être versées au dossier. Or, le tribunal qui est appelé à juger n'a pas ces instructions écrites.
Une petite question.
Il manque une pièce dans le dossier.
Toute petite question taquine, Hervé Léman, un avocat, ancien juge et auteur du procès Fillon aux éditions du Cerf. Il fait pas bon, depuis qu'il y a ce PNF, il fait pas bon être un homme politique de droite.
Ça c'est certain. Ouais. Ça c'est certain.
Si vous me répondez comme ça, c'est certain.
Ça c'est certain. Mais écoutez, il faut être clair. François Hollande, qui est un grand tacticien, je ne sais pas si c'était un grand président, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est un grand tacticien. Il a créé le parquet national financier pour casser la droite. Et le premier travail du parquet national financier, ça a été de casser Sarkozy. Et on a réussi. Effectivement, Sarkozy a été tellement englué dans les affaires pénales, il a été traité d'une façon insensée. Vous savez quand même.
C'est pas Fillon qui a cassé Sarkozy pendant la primaire.
Non, vous savez quand même que dans ce pays, on a quand même mis sous écoute téléphonique pendant 10 mois un ancien président de la République, leader de l'opposition. Dans quelle démocratie, il y a des pays où on fait ça, mais dans quelle démocratie on met sous écoute téléphonique le leader
de l'opposition? L'argument que vous soulevez, c'est exactement le même argument que celui soulevé par Jean-Luc Mélenchon, qui dit « Moi, je suis le leader de l'opposition, on me cherche des noises sur le plan judiciaire ». C'est le même argument qu'utilise Marine Le Pen, qui est suspectée d'avoir détourné des fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires de leurs députés européens, et qui dit « Je suis la grande chef de l'opposition, je suis même la principale opposition à Emmanuel Macron, et on me cherche des noises ». J'inverse la question, est-ce que ça veut dire que dès lors qu'on est un responsable politique dans l'opposition, il faudrait que la justice ne les touche plus?
Non, vous avez raison, c'est en effet il est vrai que le parquet national financier s'intéresse plus aux leaders de l'opposition qu'aux gens proches de la majorité. Et vous avez donné des exemples.
C'est pas vrai, François Bayrou, est dans la majorité, même affaire que Marine Le Pen.
Et non, justement, non.
Et M. Collère, secrétaire général de l'Élysée.
Justement, non. M. Collère, le parquet national financier, a classé son dossier discrètement au mois d'août. François Bayrou, c'est très intéressant parce que vous pouvez comparer comment ça s'est passé pour François Fillon et François Bayrou. Encore un François, il y en a beaucoup aujourd'hui. François Fillon, c'est 3 semaines pour être mis en examen. François Bayrou, c'est 3 ans. Et vous pouvez comparer aussi le traitement de François Bayrou et de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est 70 policiers qui perquisitionnent au siège de son parti, chez lui, chez ses collaborateurs, chez sa compagne. 70 policiers mobilisés comme si c'était une grande opération antiterroriste. Pour François Bayrou,
un garde-chasse.
C'est passionnant. Mélenchon a raison quand il dit.
Dernier point, on a parlé tout à l'heure des fuites qui sont scandaleuses parce que c'est une violation du secret de l'instruction. C'est-à-dire que ces magistrats, ils ont l'obligation de respecter le secret de l'instruction et de l'enquête. Or, les procès-verbaux se retrouvent dans certains journaux le lendemain, alors qu'il n'y a pas d'avocat dans la procédure. Parce qu'en général, on dit oh, c'est la faute des avocats. Mais là, il n'y a pas d'avocat dans la procédure. Ça se retrouve dans les journaux. Pas les procès-verbaux.
C'est qui? C'est les magistrats? Alors, ce sont les policiers?
C'est ou les magistrats
ou les policiers?
Vous avez raison, c'est les magistrats ou les policiers.
Mais
les procès-verbaux de François Bayrou, vous ne les avez pas lus dans la presse?
Non.
Là, ça ne fuite pas. Ne fuite que pour les gens de l'opposition. C'est très grave dans une démocratie quand vous avez un fonctionnement judiciaire qui est centré contre l'opposition, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche.
Hervé Léman, il aura quand même fallu un grand ordonnateur. La façon dont on a organisé les fuites dans l'affaire Fillon en 2017. Non, mais je ne suis pas en train de dire.
Tu penses qu'il y a un Deus ex machina?
Non, il faut un producteur.
Qui organise tout. Ah ouais, c'est ça.
Il faut un producteur télé. Faut un mec qui ait le sens de la fiction. Parce qu'il balançait pas toutes les 72 heures un nouvel élément sur
Steven Spielberg.
Mais ce mec-là, il faut le trouver, une fille, il faut l'embaucher, qu'il devienne le patron
rêves,
des RMC.
Mais tu
le
rêves, Eric.
Le patron des RMC.
Tu rêves. Pardon, ça, c'est là où je peux entendre les arguments d'Hervé Léman à l'instant, et je les écoute attentivement, etc. Je les intègre même à ma façon de raisonner sur cette affaire.
Mais ton idée
qu'il y aura un grand ordonateur.
Il y a des éléments aussi.
C'était tellement bien fait qu'il y avait une volonté.
Il y a des éléments presque objectifs qui s'additionnent à la démonstration effectivement implacable d'Hervé Léman. C'est la culture de l'institution judiciaire. Quand vous allez à l'École nationale de la magistrature, il y a une culture de gauche dans le choix des thèmes sélectionnés par les étudiants, dans plein de signaux faibles. Vous voyez les sujets sur lesquels ils se mobilisent, etc. Vous voyez bien que vous n'êtes pas HEC quoi, en termes de ligne politique des étudiants. Après, vous avez le syndicat national de la magistrature. Je vais pas reparler de l'épisode du mur des cons.
Ça y est, Eric l'a fait déjà.
Du mur des cons. Donc si vous voulez, vous avez quand même une justice en France qui est consubstantiellement de gauche et qui, résultat, quand elle arrive aux affaires, effectivement, poussée au crime. C'est une expression par François Hollande, parce que effectivement, le verre était dans le fruit de ce parquet national financier. À partir du moment où en fait François Hollande, président de la République, vous dit à des magistrats, vous êtes une juridiction spéciale, on vous a choisi pour enquêter que sur justement les VIP, les fraudes des VIP. En fait, c'est pas sain. Enfin, c'est au fondement des règles juridiques d'une civilisation. Je sais pas si c'est sain d'avoir une juridiction spéciale.
Oui, les tribunaux spéciaux, on sait ce que ça devient dans les démocraties en général. Là, on en a créé.
Non, il n'y en a pas en France.
Le PNF,
c'est pas un tribunal. Le PNF, c'est un
parquet spécial.
Vous savez, quand on a créé le PNF, on a créé justement une chambre supplémentaire au tribunal correctionnel de Paris. C'est-à-dire qu'il y a une 32e chambre au tribunal correctionnel de Paris pour juger les affaires apportées par le PNF.
Bien. Merci Pauline Rovna qui nous quitte, qui revient.
Et merci Pauline de m'avoir aidé un petit peu une fois de plus.
À bientôt.
On attend le numéro 3 dans tes documentaires. Qui a tué Fillon, c'était le premier. François Fillon après le crash sur BFM TV, c'était le deuxième. Et peut-être parlera-t-elle des magistrats qui ont instruit l'affaire François Fillon depuis 2017. Ce sera le troisième numéro de ces documentaires. Voilà, vous restez avec nous, mesdames, messieurs. C'est pas du tout fini. Nos invités restent avec nous. On prendra dans un instant Olivier qui nous appelle dans Bruno Neumann sur RMC depuis Le Pradet dans le Var. Il a fait le 32-16. À tout de suite.
Midi 14h.
Bruno Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Bon. Mon Laurent, c'est dur aujourd'hui. Quel débat.
C'est dur pour moi, tu veux dire.
Ouais,
parce qu'il y a toi. Bon, toi, déjà, t'es quand même le genre de type assez convaincant. Il y a Tuc Dual-Denis qui est avec nous, qui est l'auteur de La vérité sur le mystère Fillon, Les secrets d'un homme, Le serment d'une famille aux éditions Plomb.
Qui sort aujourd'hui.
Qui sort aujourd'hui et qui est plutôt de ton avis. Il y a Hervé Léman qui est avec nous, avocat, auteur du procès Fillon aux éditions du Cerf. Je t'avoue que je me sens un peu seul. Tu sais quoi? Est-ce que, oui ou non, on a volé l'élection présidentielle de François Fillon? On peut peut-être déjà aller voir Lisa Marie, juste pour une petite tendance rapide.
Une petite tendance. Bah, Eric est toujours en tête, il conserve sa tendance en tête, il a 72% des voix pour le moment.
Baissé. Tu veux nous lire un petit message?
Tu veux bien nous lire? Pourquoi tu me parles comme ça?
Je parle gentiment, pour montrer que je suis un mec gentil. Quoi.
D'accord, je peux vous lire un petit message de Marie sur Facebook qui nous dit « Les politiques et leur rapport à l'argent, c'est pour ça qu'ils se battent. François Fillon était déjà perdant au départ et quelques ans que cela a arrangé ont précipité sa chute. Politique, argent, pouvoir, lui ou un autre, c'est pareil. »
Mais je m'étonne, Eric, que les 72% de gens qui sont d'accord avec toi et avec nos invités, d'ailleurs, au passage, je m'étonne qu'au fond, les faits reprochés à François Fillon ne soient pas pris en compte. Ça ne les intéresse pas. Au fond, il y a peut-être eu emploi fictif, il y a peut-être eu un million d'euros d'argent public détourné, mais au fond, ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est qu'on leur a volé l'élection. Ça ne les aurait donc pas dérangés qu'un président de la République soit à l'Élysée pendant 5 ans, peut-être même pendant 10 ans, avec ces faits-là. Je suis quand même très étonné.
Tu priorises dans l'horreur, et moi je trouve que
L'important, c'est de savoir si les faits ont été commis ou pas.
Le plus grave dans cette affaire, c'est le manque d'indépendance de la justice, dont on nous dit depuis des années, vous savez, la justice est indépendante dans ce pays.
Je pense que c'est une façon un peu facile d'effacer d'éventuelles, je dis bien d'éventuelles turpitudes, et ça, c'est au tribunal d'en décider.
Comme elles sont éventuelles, les Français, ils disent peut-être que, primo, ils savent très bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de députés qui ont fait ça pendant des années, et que donc, par relativisme, pourquoi lui, il est plus emmerdé?
Je t'arrête tout de suite. Éric Brunet, Hervé Léman, Tuc Dual-Denis, si lundi, à 13h30, le jugement est rendu et qu'il condamne François Fillon, vous revenez ici pour m'expliquer que les faits, finalement, étaient plus importants qu'on l'a imaginé?
Non, je reviendrai ici pour dire que François Fillon a eu raison de faire appel.
D'accord. Donc, vous voyez, vous refusez de voir
les faits. Je reviendrai dans mon émission pour dire que j'ai désormais une confiance assez relative dans certains juges.
Mais pas en François Fillon.
Mais moi, je suis désolé, Laurent, j'ai été
trop
loin.
Moi, j'aime Fillon. Moi, je pense que, je vais te dire une chose. Je suis un pragmatique.
C'est
intéressant. Je pense qu'il aurait fait de toute façon un meilleur président que Macron et qu'on serait moins dans la panade aujourd'hui.
Voilà. Allez, on va au 32-16.
RMC, Brunet-Neumann.
32-16.
Et tu l'as dit tout à l'heure, Eric, c'est Olivier qui a composé le 32-16. Il nous appelle du Pradet dans le Var. Bonjour et bienvenue sur RMC. Salut Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour à toute l'équipe, Eric, Laurent et tous les autres. Écoutez, d'habitude je suis plutôt Laurent, mais là aujourd'hui je suis à 2000% pour Eric.
Vas-y, explique.
Je m'explique tout simplement. Bon, effectivement, cette affaire est sortie au moment de l'élection présidentielle. Il y a eu des fuites de la justice. C'est pas la bonne institution de la justice qui s'est saisie de l'affaire. Les médias en ont rajouté tous les jours. Donc effectivement, on l'a détruit cet homme-là, d'accord. Et en le détruisant lui, effectivement, on a détruit tout le courant de la droite qu'il représentait. Donc du coup, il n'a pas pu défendre ses chances. Et donc la droite n'a pas pu défendre ses chances. Donc effectivement, on a torpillé l'élection.
Pourquoi Olivier ne s'est-il pas retiré? Quelque chose me dit que si toi tu avais été à la place de François Fillon, tu aurais peut-être considéré que pour te défendre, pour défendre d'ailleurs les idées que tu incarnais à l'élection présidentielle, il fallait un candidat irréprochable, susceptible de porter les couleurs de la droite. Pourquoi ne s'est-il pas retiré à ton avis?
Moi, pourquoi il s'est pas retiré? Parce que il était favori de la droite. Bon, et je pense surtout. Alors, effectivement, moi personnellement, à titre personnel, je me serais retiré. Mais c'est pas la philosophie des hommes politiques. On le sait tous. Si aujourd'hui dans le paysage politique ne se présentaient que les gens qui sont 100% irréprochables. Je pense qu'il y aurait personne, peut-être même pas vous, peut-être même pas moi. Je pense que en plus c'est pratique. Je pense qu'il va être condamné. Hein. Sincèrement, je pense qu'il va être condamné. Je pense que ce sont des emplois fictifs. Je pense que la justice va rendre son verdict lundi et que.
Mais tu dis comme Brunet, mais malgré tout ça, je pense qu'il aurait fait un meilleur président de la République. Donc au fond, on s'en fiche qu'il ait fait des choses mal. L'important, c'est le président.
Alors, Moi, ce qui me gêne, c'est comment est sortie cette affaire, d'accord? Les faits de la justice.
Et ben voilà.
Ce sont, alors, après, les faits, je pense qu'ils sont tout à fait réels. Après, il faut se poser une question. Effectivement, à l'époque, c'était une pratique courante. Tout le monde le savait, je veux dire ça, tout le monde le savait. Si on s'intéresse un tant soit peu à la politique, tout le monde le savait. Tout le monde embauchait sa fille, sa femme, sa belle-fille, etc.
T'as juste une chose, mais j'ai compris, Olivier, ce que tu dis, mais justement, Tugdual Denis, qui a vécu, entre guillemets, avec les Fillon de l'après-affaire Fillon, Tugdual, tu as parlé de ça avec François Fillon.
Pourquoi il s'est parti ré?
Pourquoi il s'est parti ré?
Bah, en fait, le truc, c'est que à l'époque, dans le scénario, il y a Juppé, qui est le plan B, il y a Baroin et il y a Sarkozy qui, comme d'hab à droite, tire les ficelles et donne le tempo. En gros, la veille du Trocadéro, Sarkozy appelle Fillon et lui dit écoute, c'est dur, c'est comme ça, mais franchement voilà, tu peux pas y aller quoi, tu peux plus continuer. Donc décide dans ton âme et conscience, mais et même si c'est injuste, même si voilà, c'est un peu douloureux pour moi de dire ça, arrête. Fillon a Juppé au bout du fil. Et Fillon est complètement décontenancé par Juppé, parce que Juppé dixit Fillon dans le livre, et au bout du fil est complètement arrogant, dit que de toute façon Sarko en fait c'est un piège, ne le laissera jamais y aller, et que donc il se sent pas du tout d'y aller. Par ailleurs, Juppé avait aussi un potentiel d'ennui judiciaire à réveiller, donc ouais. Il était pas très à l'aise à l'idée d'aller à l'élection présidentielle. Et puis au milieu de tout ça, il y a Baroin qui lui est détesté par Juppé et qui était poussé par Sarko. Donc, si vous voulez, ils se sont tous neutralisés, quoi.
Ouais. Le résultat.
Et par ailleurs, le lendemain, il fait le Trocadéro et la place est blindée de monde. Ça prend plutôt bien.
Et sa famille lui dit papa, vas-y.
Honnêtement, c'est assez saisissant. La veille, il y a un dîner chez Marie Fillon, qui est l'aînée de François Fillon, où avaient lieu tous les conciliabules un peu secrets de la famille Fillon pendant l'élection présidentielle. Et chez Marie, il y a tout le monde. Il y a les pièces rapportées, il y a les épouses des uns et des autres, etc., de tous les fils. Et en fait, Fillon arrive, c'est le jour de son anniversaire, pour la petite histoire.
63 ans,
la veille du Trocadéro. Et Charles, l'aîné, dit j'avais jamais vu mon père avoir une tête d'enterrement pareille. Le dîner commence, tout le monde pressent bien que François va annoncer quelque chose de pas très positif. Et François, prend la parole et dit bon, écoutez, voilà, j'arrête, c'est ma décision, c'est trop dur pour tout le monde en prend plein la figure, vous, moi, la droite, donc demain j'arrête. Et là, en fait, il y a toute sa famille qui se ligue contre lui et qui lui dit mais attends, papa, on n'a pas fait tout ça pour ça, quoi. En plus, c'est une famille qui, à la base, n'est pas très militante, qui n'avait pas trop suivi la carrière de leur père. Et là, qui se sont tous transmutés en militants, parce que, étant donné qu'ils jugeaient que leur père était victime d'un procès inique, ils sont allés au meeting, ce qu'ils faisaient jamais, ils regardaient tous les débats télé, ils étaient à fond, ils étaient sur Twitter, ils retweetaient des papiers de Valeurs Actuelles, etc. Et donc, ce soir-là, même Pénélope sort de sa réserve et dit à son mari, écoute, on n'est pas allé jusque-là pour que arrêtez maintenant.
Bien. D'autres témoignages au 32-16, votre avis, votre opinion, a-t-on volé l'élection présidentielle pour Laurent Neumann à François Fillon? C'est non, pour moi c'est oui, et vous, qu'en pensez-vous? À tout de suite.
Midi 14h,
Brunet Neumann,
Éric Brunet,
Laurent Neumann.
Rebondissement dans l'affaire Fillon, est-ce que la justice a faussé l'élection présidentielle de 2017? Est-ce qu'on a volé à François Fillon sa victoire? C'est le moment de savoir, les amis, comment vous avez voté.
RMC,
Brunet Neumann,
le qui tu choisis?
Alors, la justice a-t-elle faussé l'élection présidentielle? Eh bien, vous êtes 76% à répondre oui, comme Éric. C'est donc une victoire pour Éric Brunet aujourd'hui.
J'étais un peu seul aujourd'hui, parce que tu avais des invités et de poids à tes côtés, mon Éric.
Bon, de toute façon, on en reparle de cette affaire lundi, on en parle lundi, ouais. Et maintenant, que va-t-il se passer? On attend une décision de justice, Hervé Lehmann.
Oui, on aura une décision de justice lundi. Mais il faut surtout tirer les leçons de cette histoire. Il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Donc il faut supprimer ce parquet national financier, qui est une calamité, et on le voit encore avec les affaires récentes supplémentaires. Il faut supprimer ce parquet national financier, et il faut instituer un procureur général de la nation indépendant pour les affaires politiques.
Merci Hervé Lehmann, ancien juge, avocat, auteur de Le procès Fillon aux éditions du Cerf. Merci à Tugdual Denis, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, la rédaction, et auteur de La vérité sur le mystère Fillon, Les secrets d'un homme, Le serment d'une famille chez Plon. Ça sort aujourd'hui.
Ouais, et quelque chose me dit que cette affaire Fillon, mon Éric, on va y revenir, toi et moi, je ne te lâcherai pas les mollets, tu vas voir. C'est l'heure d'accueillir l'ami Rémi Barré qui vient de faire son entrée dans ce studio. Salut Rémi.
Salut Laurent, salut Éric.
Grave valeur, attention, ouais. 3, 2-1. Il est pile 14h, mon pote.
Exactement. Et dans un instant, nous, on va parler d'amour. Ça va faire du bien de parler d'un peu d'amour. Pourquoi ?
Ça fera du bien, Eric, surtout.
Pourquoi ? Parce qu'une étude, vient de paraître. En temps de Covid, c'est très compliqué, même après le déconfinement, hein, c'est très compliqué aujourd'hui de faire des rencontres amoureuses, paraît-il, notamment pour les jeunes. On va en parler dans un
instant. Pour Eric, surtout.
Oui, oh, quoi qu'il a, il a des méthodes.
Oh, moi, j'ai des méthodes.
Tu nous appelles au 32-16, Eric.
Je ne connais pas, mais je vais t'appeler au 32-16 pour te donner mes méthodes, dont j'ignore tout, mais je t'appelle.
Allez, RMC 14h.